Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de voir qu'il y a du monde ce soir. Le salon est bien rempli. Merci à la librairie Mola d'organiser ces rencontres régulièrement, qui rencontrent donc du succès, visiblement. Et merci à Emmanuel Todd d'être parmi nous. Alors juste, je vous précise, parce que pratiquement personne ne me connaît, mais je suis Bruno Béziat, je m'appelle Bruno Béziat et je suis journaliste à Sud-Ouest, responsable du service Société. Voilà. Alors Emmanuel Todd, on va parler de ce livre, mais juste avant, il n'y a pas besoin de vous présenter, mais je vais quand même le faire parce que j'ai l'esprit de contradiction. Vous êtes démographe, anthropologue, historien, politologue, essayiste, alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voudriez le mettre.
Mais mes deux vrais métiers, mon vrai métier, c'est l'histoire. J'ai vraiment fait un doctorat d'histoire, une licence d'histoire. J'ai fait Sciences Po en parallèle, donc j'ai fait un peu de tout. Mais honnêtement, ce que j'ai appris à la fac était beaucoup plus important que ce que j'ai appris à Sciences Po.
Et il n'y a personne de Sciences Po, là.
Hein ? Non, mais je tiens à le dire, puisque les gens passent leur temps à cracher sur les facs, à s'extasier de... Donc voilà. Et puis ensuite, ma thèse, je l'ai faite en Angleterre et là, j'ai fait énormément d'anthropologie. Donc je suis historien-anthropologue. Et puis, je travaille à l'Institut national d'études démographiques, parce que j'avais fait de la démographie historique. Donc évidemment, je suis compétent en démographie. Encore que la dernière fois qu'un copain m'a fait calculer des indicateurs de fécondité, c'était un peu moyen. Et puis j'ai fait un peu de tout. Le seul truc que je refuse, c'est philosophe. Ça, je ne suis pas philosophe.
Je ne l'ai pas dit, vous avez bien noté.
C'est parfait, c'est pour ça, mais c'est un compliment.
Voilà. La famille, on va en reparler. Vous avez publié de nombreux livres. La troisième planète en 1983, La Nouvelle France en 88, L'invention de l'Europe en 90, Le destin
oui,
des immigrés également.
Oui, les fonctionnaires travaillent.
Vous avez été assez prolifique. L'illusion
mais non,
économique.
Mais je veux dire, la plupart de ces œuvres sont le produit de la fonction publique, je tiens à le dire.
Et alors parmi les plus connus, on va dire, L'illusion économique et Après l'Empire en 2002, où vous prophétisez d'une certaine façon la crise économique actuelle, presque.
Ah oui, il y a une phrase extraordinaire dedans, où j'explique que
on
les gens...
On en reparlera peut-être à la fin, ou s'il y a des questions du public. Non, allez-y.
Non, mais c'est vous qui commencez, donc si vous démarrez à me dire ça, donc moi, si vous commencez à m'envoyer des louanges, je continue volontiers à m'envoyer des louanges, il n'y a pas de problème.
Allez-y.
Et non, mais il y a une phrase dedans sur... sur la façon, on ne sait pas quand, je ne sais plus ce qu'elle disait, on ne sait pas quand les gens qui investissent aux États-Unis, on ne sait pas quand ils vont être plumés, mais ils le seront. C'était avant la crise financière. Donc c'était bête. Mais actuellement, j'en ai une mieux comme ça.
Et là, ils le sont.
Ils le sont. Mais là, j'ai beaucoup mieux, en fait. Enfin, j'ai plus actuel. J'ai relu l'autre jour, avant ce pavé, j'en avais écrit un autre qui s'appelait L'invention de l'Europe. J'analysais en détail la diversité des systèmes familiaux en Europe. Et c'est le livre qui avait conduit à penser que la monnaie unique n'était pas possible. Et elle ne l'était pas. Ainsi qu'on peut le constater chaque jour. Et ça se termine. J'avais fait une réédition de la préface. Le livre, l'invention de l'Europe, avait été fait avant le traité de Maastricht. Et c'était réédité en 1996. Donc j'ai fait une courte préface vitriolique sur le projet maastrichtien. Et ça se termine par un petit paragraphe ou deux paragraphes où je dis quelque chose du genre « Eh bien, c'est pas le sujet du livre, qui est un livre scientifique sur l'histoire de l'Europe, mais si on applique à ce qui se passe maintenant et si on réfléchit, soit deux possibilités, soit la monnaie unique ne se fait pas finalement et le livre permettra de comprendre les raisons de certaines impossibilités historiques, soit elle se fait. » Et dans ce cas-là, nous aurons tous les éléments explicatifs, enfin c'est l'esprit, nous saurons pourquoi l'unification monétaire d'un continent en l'absence de conscience collective aura produit une jungle plutôt qu'une société. Je relis ça tous les jours actuellement avec beaucoup de satisfaction intellectuelle.
Alors, c'est vrai,
une fois, c'est un produit de la fonction publique qu'on cherche à diminuer. Comme quoi les fonctionnaires non seulement travaillent, et font du travail socialement utile.
Et les chercheurs aussi. L'actualité, sans vous donner raison, on en reparlera. On est là pour parler de ce livre, L'origine des systèmes familiaux, tome 1. Donc oui. Il y en a deux autres, c'est ça, à venir, je crois.
Alors, j'hésite. C'est-à-dire, soit je fais un tome 2, soit je pars du principe que je suis immortel, et je fais un tome 2 comprenant l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Soit je me souviens que je travaillais à l'INEM, que j'ai en tête des profils, des cautions de mortalité, etc., que j'ai 60 ans, et je la joue prudent, et je fais dans des délais raisonnables un tome 2 sur l'Afrique, pour assurer le coup, et j'essaye, si je suis encore vivant ensuite, de faire le tome sur les Amériques, en essayant de dire quelques mots sur l'Océanie. Mais voilà, c'est une question à mon âge, on doit adapter son projet de recherche à des paramètres démographiques.
Parce qu'effectivement, c'est un pavé, une somme, ce livre, près de 600 pages.
750.
Il y a 600 pages, c'est les avec les notes.
750. Ah ouais, mais les notes, c'est ce qu'il y a de mieux.
Ah, c'est ce qu'il y a de mieux, oui. alors, ça ne se lit pas comme un roman, hein. Je ne vais pas vous le dire.
Je vous trouve très injuste.
c'est dense, c'est complet, c'est précis, c'est très documenté.
Oui.
On comprend très vite qu'il y a une somme de travail. Ça, c'est pratiquement la famille vous intéressait depuis très longtemps. Ce sont des années, des dizaines d'années de recherche.
J'ai fait ma thèse à Cambridge avec Peter Laslett, qui était le pape de la Renaissance des études sur la famille. Donc en fait, je travaille sur la famille depuis 1971. J'ai effectivement eu le temps de lire 2-3 trucs.
Voilà. Vous y analysez effectivement les systèmes, ça peut se comprendre que ce soit important, les systèmes familiaux de l'ensemble de l'Eurasie, Europe-Asie, et vous remontez très loin jusqu'à l'apparition de l'écriture en Mésopotamie.
On a une documentation extraordinaire pour la Mésopotamie à cause des tablettes d'argile qui ont laissé subsister non pas simplement des codes de loi. Le code d'Amourabi, d'ailleurs, n'est pas sur tablette d'argile. Là, il y a une très belle pierre au musée du Louvre dans laquelle on a des règles d'héritage, des choses comme ça. Mais les tablettes d'argile donnent des divisions d'héritage effectifs, des querelles d'héritage. Donc on peut décrire avec une très très grande précision la famille mésopotamienne au troisième millénaire.
Je voulais en venir à ce qui vient à l'esprit.
Ce dernier chapitre sur la Mésopotamie et l'Égypte me met dans un état de joie particulier.
En fait, l'idée de ce livre, c'est quoi finalement? Parce qu'on a l'impression que c'est quasi encyclopédique. On a l'impression que vous avez voulu publier l'ouvrage qui fera date. Voilà. Le dernier, après, il ne peut plus y en avoir d'autres. Vous rassemblez tout, c'est très documenté, encyclopédique.
Oui, alors, le livre a deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une thèse, en fait, extrêmement simple, qui est expliquée dans l'introduction. C'est pour ça que le livre est à la fois très long, et c'est clair que ce n'est pas un roman de plage. Peut-être pas mal pour s'endormir le soir. Si on prend des bouts, si on rentre dans le détail des systèmes familiaux chinois, les interactions entre les paysans, les nomades de la semaine, etc. Mais ça serait injuste de dire que le livre est difficile à comprendre parce que l'introduction décrit une thèse très simple et à mon avis très claire et difficilement réfutable. C'est-à-dire que moi j'avais fait la première partie de ma carrière de chercheur sur la structure familiale a été consacrée à utiliser la diversité des types familiaux dans le monde, c'est-à-dire le fait que les Français, les Anglais, les Français du Nord en tout cas, les Anglais ont décidé ou les Indonésiens, mettons, ou les Birmans, ou les Philippins ont des systèmes familiaux qu'on appelle techniquement nucléaires. La famille nucléaire, c'est la famille censément moderne. Papa, maman et les enfants et rien de plus. Éventuellement des gens autour, pas loin, mais pas plus. C'est la nôtre, mais c'est aussi celle des aborigènes de l'intérieur des Philippines. Et pas simplement des Tagalogs, en fait, plus primitifs encore. Et puis en plus, avec un statut de la femme, différent de celui des hommes, mais assez élevé, une relation assez égalitaire. Mais différente, mais assez égale finalement. Et puis, vous avez trouvé des systèmes familiaux un poil plus complexes au Japon ou en Allemagne, ou dans le sud-ouest de la France d'ailleurs, la famille souche, c'est des systèmes à primogéniture masculine, avec une sorte de droit d'aînesse, et puis avec des constitutions à certaines phases du cycle de développement de ménage comprenant 3 générations. Et puis, alors, vous avez des systèmes qui sont carrément beaucoup plus lourds, qui sont, par exemple, le système familial russe, chinois, indien du Nord, ou toscan. Là, vous allez trouver des agrégations je parle des systèmes paysans, hein, là. Vous allez trouver le père, ses fils, les épouses des fils. Donc vous allez avoir trois générations, les petits-enfants. Puis vous allez avoir une extension latérale des ménages. Et en fait, j'ai utilisé cette diversité des systèmes paysans traditionnels pour essayer de comprendre pourquoi l'accession à la modernité, c'est-à-dire la montée des taux de natalisation, le développement d'une politique moderne, la baisse de la fécondité, ça avait produit des adaptations si différentes. Pourquoi les Anglais sont passés... ils ont fait une révolution, ils ont décapité un roi, mais ils sont passés sans trop de problèmes au libéralisme. Les Français, la même chose, avec une nuance égalitaire. Enfin, plus qu'une nuance, d'ailleurs. Bon, en Allemagne et au Japon, les idéologies de transition ont été plus ethnocentriques, autoritaires, totalitaires, même, dans les deux cas. Puis pourquoi dans d'autres pays, le communisme ? Donc j'avais cette grille familiale. Et puis je rentrais ça dans des boîtes. Ça marche très bien.
Vous avez classé 15 types ?
Non, ça, quand j'étais à ce stade, j'en étais à pas plus de 7. Hein. Et avec le temps, on apprend à voir mieux. C'est assez paradoxal parce que la vue baisse, et pourtant, on voit mieux comme chercheur. C'est la beauté du concept, bon, si on peut dire. Et voilà. Ce qui me restait comme problème, c'était mais pourquoi cette diversité des types familiaux ? Quand on arrive, c'est une variable extrêmement puissante. Hein, j'ai utilisé pour la diversité des types familiaux pour comprendre. Ça permet encore de comprendre pourquoi les capitalismes allemands et japonais se ressemblent tellement. C'est vraiment une variable très puissante. Mais je peux pas dire que la segmentation de l'humanité en types familiaux me faisait plaisir. D'ailleurs, j'avais été accusé d'être un sale type. J'ai pas été accusé de racisme, mais tout juste. Bon. Et il y avait cette question, pourquoi cette diversité des types ? C'était la clé, la solution m'a été donnée par un ami linguiste que je cite dans le livre, Laurent Sagard, qui m'a dit un jour, mais écoute, tu vois, moi je ne sais pas ce que c'est, tes types familiaux, mais toi tu dis qu'ils sont distribués au hasard, mais en fait, tu vois, là, tu as des taches bleues claires en France, en Espagne, pas dans toute l'Espagne, mais tu as un vert clair sur l'Angleterre, tu as un violet qui semble la même chose sur l'Indonésie, tout ça, tu as l'air d'appeler ça nucléaire, ça a l'air d'être un peu la même chose, puis toi, tu as du vert foncé des deux côtés de l'Eurasie, aussi un peu plus proche du centre, en Allemagne et au Japon. Puis tu as une grosse flaque au milieu, rouge ou beige. Oui, j'ai encore la carte dans la tête, hein, avec les couleurs, qui couvre le cœur de l'Eurasie, le Moyen-Orient arabe. Et puis tout ça fait une flaque d'un seul tenant. Il dit, mais en linguistique, on connaît très bien ces cartes que nous permet d'expliquer le principe du conservatisme des zones périphériques. Alors, je vous donne le modèle. Généralement, quand je parle du modèle théorique le plus général, maintenant, je parle d'une pizza. J'essaie d'imaginer une pizza elliptique. Je vous demande de faire l'effort de représentation mentale, une pizza elliptique. Et vous imaginez une grosse sorte de petits points blancs autour, séparés, de caractère A. Puis au milieu, une sorte de masse rouge, si vous voulez. Ne pensez pas à une vraie pizza. Hein. Parce que si ça ne va pas marcher avec la distribution de la tomate et de la mozzarella. Donc c'est juste... Vous représentez un caractère A dans des petites flaques séparées sur les bords, puis une grosse flaque centrale, d'une seule couleur, qui représenterait un caractère B. Et dit, mais ça, c'est très facile à interpréter. C'est d'autant plus irréfutable qu'il y a beaucoup de petites flaques séparées A autour. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une époque où cet espace était rempli par le caractère A, qu'on retrouve sur la périphérie, qu'il y a eu au milieu une innovation, le caractère B, qui s'est répandu vers la périphérie et qui n'a pas atteint toute la périphérie. Et donc, ce que tu trouves, parce que quand même, on se connaît depuis mai 68, donc il me tutoie, ce que tu trouves sur la périphérie, c'est simplement les restes du système ancien. C'est un principe qui était très bien connu des anthropologues, américains notamment, avant la destruction de l'anthropologie par les structuralistes, et notamment Claude Lévi-Strauss.
Donc, et vous êtes méchant avec Claude Lévi-Strauss, j'ai remarqué.
Je peux me permettre, c'était un cousin de ma grand-mère, ça ne sort pas de la famille. ce qui me paraît la moindre, je le connais absolument pas. Je l'ai interviewé une fois, c'était horrible, mon magnétophone est tombé en panne. Ouais. Oui.
Quelle critique vous faites
finissez l'explication. Absolument, j'y viens. Et donc, c'est un principe d'explication extrêmement puissant qui permet de lire l'histoire dans une carte. Il y a un exemple qui est très, très simple en France. Pour voir comment, à quel point c'est simple. Vous prenez les maisons à Colombage, à Pont-de-Bois. Bon, il y en a pas mal dans le sud-ouest, pas à Bordeaux. Bordeaux, nous sommes en dehors, nous sommes dans la maison de pierre, de style quasiment parisien, en fait. Mais les maisons à Pont-de-Bois, vous allez en trouver en Bretagne, vous allez en trouver en Normandie, vous allez en trouver en Alsace, dans le sud-ouest, un petit peu à Troyes, un peu isolé. Et puis, vous aurez de la maison de pierre dans l'ensemble du bassin parisien. Et puis, bon, je laisse de côté la façade méditerranéenne qui relève d'autres choses. Donc, si vous êtes dans un modèle structuraliste ou structural, vous allez dire, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ces cultures bretonnes, normandes, alsaciennes et du sud-ouest ont en commun? Vous allez être embêté parce que vous allez avoir des niveaux de développement dans les sociétés traditionnelles extrêmement différents. L'Alsace et la Normandie très avancées, la Bretagne assez arriérée. C'est pas une critique, je veux pas d'histoire, j'avais un grand-père breton. Le sud-ouest, pas d'histoire, encore que je pense qu'à Bordeaux, je pourrais me lâcher sur dire. Toulouse. Mais sans trop de risques, mais disons moyen, en termes de niveau de développement. Et vous n'avez pas trouvé de variables qui correspondent. Mais si vous constatez simplement que les maisons à pans de bois sont dispersées en poches isolées sur la périphérie, c'est le système archaïque. En fait, on le sait au départ, dans ce cas-là, c'est ça qui est intéressant. Ben, en fait, c'est simplement les maisons à pans de bois, c'est la technique de construction du bas Moyen-Âge, et ça reste sur la périphérie parce qu'il y a une innovation centrale qui est la maison de pierre qui s'est répandue dans le grand axe du bassin parisien et dans ses prolongements bordelais. Voilà, mais ça marche pour des tonnes de variables. Personnellement, ma conversion ultime au principe du conservatisme des zones périphériques, c'est-à-dire sur la périphérie, on trouve les systèmes archaïques, ça s'est passé à Périgueux, où un jour, j'ai vu un punk, à une époque où, depuis longtemps, il n'y avait plus de punk à Londres. Principe du conservatisme des zones périphériques. Mais vous pouvez jouer. Je suis sûr qu'un jour, si vous êtes motivé, vous pourrez l'appliquer. Vous voyez ? Et donc, alors qu'est-ce que ça donne sur les systèmes familiaux ? Ça veut dire que la famille nucléaire, on la trouve sur toute la périphérie. La périphérie de l'Eurasie, vous allez la trouver chez les Lapons, en Islande, en Angleterre. Il y a des tonnes d'exceptions qui sont expliquées. C'est pour ça que le livre est si long, c'est que je rentre dans tous les détails. Vous allez trouver la famille nucléaire à Ceylan, des formes encore qui restent encore un peu nucléaires au sud de l'Inde. Vous allez en trouver dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, jusqu'aux Philippines. Vous allez en trouver chez les paléo-sibériens, l'extrême nord-est de l'Eurasie, quand on approche du détroit de Bering. Ça va être associé à un statut des femmes qui reste élevé dans les sociétés traditionnelles. Et donc, vous regardez la carte, vous dites, c'est très simple, la structure de la famille nucléaire, c'est le système primitif de l'humanité. Et puis les systèmes lourds du centre, le système chinois, russe, indien du Nord ou du Moyen-Orient, ces associations autour des hommes, autour du principe patrilinéaire, ces grandes familles communautaires ou patriarcales, ce sont des innovations, ce sont des créations de l'histoire. Et puis les systèmes allemands, japonais, lignagés, souches, c'est un stade intermédiaire. Et donc vous avez un modèle immédiatement. C'est là que le livre est simple, en fait, dans l'introduction. C'est un truc... l'introduction... Je me permets de vanter l'introduction, parce que je l'ai écrite et que j'en suis content, mais qu'en plus, ça a été retravaillé par Éric Vigne, mon éditeur, qui a fait que c'était encore mieux et compréhensible. Donc, comme je ne suis pas seul responsable, je me permets d'en dire beaucoup de bien. Comme ça, ça laisse les gens penser, la possibilité de penser, ce qui serait une erreur, que tout le bien vient de l'éditeur. Et puis, voilà. J'en viens maintenant à votre question, la complexité du livre, qui est sa deuxième dimension. C'est que le principe général est très simple, mais ensuite, quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'à l'intérieur de la zone centrale, communautaire, patrilinéaire, on se rend compte que les blocs moyen-orientaux, russes, chinois, sont un peu plus séparés qu'il n'y paraît, qu'il y ait une forme familiale intermédiaire, typologie à 15 types beaucoup plus fine, ouais, spécifique des nomades de la steppe. Et donc, j'ai pris le parti de faire une analyse détaillée pour les grandes zones. Donc, j'ai un chapitre sur la Chine et sa périphérie, un chapitre sur le Japon, un chapitre sur l'Inde, un chapitre sur l'Asie du Sud-Est, trois chapitres sur l'Europe, un chapitre sur le Moyen-Orient récent, c'est le monde arabe et l'Iran, et puis un chapitre sur le Moyen-Orient récent. Et dans chaque cas, j'applique la même méthode. C'est d'abord une analyse cartographique où je regarde la distribution des types dans l'espace. Donc, si je prends la Chine, par exemple, je vais trouver des résidus autour de la Chine de familles souches, d'héritiers uniques sur la périphérie de la Chine. Donc, à partir de ça, ça me dira, oui, c'est un système qui, à l'échelle de la Chine, est plus ancien que le modèle égalitaire communautaire central. Et ensuite, je prends les documents historiques. Et on voit effectivement, au XIe siècle avant l'ère commune, des premiers signes d'héritage par le fils aîné de primogéniture dans les annales chinoises. Et ça, je l'ai fait. C'est-à-dire cette combinaison d'analyse cartographique, dans un premier temps, pour situer l'âge relatif des systèmes familiaux, et puis ensuite, dans un deuxième temps, essayer de cadrer là-dedans ce qui a subsisté de données historiques pour voir si ça colle, je l'ai fait pour chacune de ces grandes zones. Et donc, ça prend du temps.
Alors, je voudrais juste revenir une seconde sur le principe général. Oui. Vous dites donc la famille nucléaire, qu'on pensait être celle du monde moderne, en fait, pas du tout, c'est celle d'origine. Oui. Vous dites, je crois que vous employez même le mot archaïque, la famille archaïque. Oui. C'est-à-dire qu'on la retrouve effectivement, c'était les tribus, les Aktash, Oshon, Bushmen, etc. Alors, la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi elle a disparu d'une certaine façon. Alors, elle a été recouverte, comme vous disiez, sur la pizza, oui, d'autres types familiaux.
Je ne sais pas pourquoi la métaphore de la pizza aide tellement l'esprit. Moi, ça me fait du bien. C'est chaleureux. Et c'est de l'histoire, ce livre. C'est-à-dire que la question du pourquoi est implicitement posée. Mais ce que je veux surtout, c'est décrire, d'après les cartes et d'après les documents historiques, comment ça s'est passé. Donc, on peut démontrer que la famille, bon, vous prenez la famille égyptienne du troisième millénaire, on a tous les documents qu'il faut pour montrer qu'elle était nucléaire individualiste. Donc, ensuite, on peut voir apparaître des systèmes de primogéniture, d'héritage par le fils aîné, donc premier stade de construction. Ensuite, dans l'interaction de ces systèmes de primogéniture, qui présente un premier principe patrilinéaire, et des groupes nomades, que ce soit les nomades de la Grande Steppe, les Huns, ou les nomades bédouins de Syrie, à une période plus ancienne. Ensuite, on voit apparaître la famille communautaire la plus vaste. Mais, je veux dire, il y a quelques spéculations sur le pourquoi des choses, mais finalement, ce n'est pas essentiel. Donc, par exemple, une des choses que je dis, qui évoque le pourquoi, c'est que, bien entendu, la famille souche voulait expliquer ce premier stade de la montée en complexité de la famille nucléaire. La famille souche, héritier unique, truc sur trois générations. Bon, à mon avis, il y a un rapport de possibilité, pas de stricte détermination. Bien entendu, il y a de grandes chances pour que la famille souche n'a pu apparaître que dans des mondes pleins, comme disait Chaunu. C'est-à-dire quand vous avez un certain type de densité de l'occupation des terroirs, que la question de l'abondance de la terre, du sol, se pose. Si vous avez une terre absolument abondante, les gosses peuvent partir, défricher, etc. Et évidemment, l'idée de transmettre indivis un patrimoine a plus de chances ou présente un certain degré de rationalité quand vous avez à peu près rempli l'espace. Et je le dis, ça, là-dedans. Mais d'un autre côté, on va trouver aussi des terroirs assez pleins où ça ne s'est pas produit. Hein ? Et puis, on va trouver aussi des régions où la famille souche s'est répandue une fois que le concept est apparu, le concept de primogéniture. Et si ce concept est porté par un groupe prestigieux, il va être prestigieux au départ, parce que, ça, par définition, ça apparaît dans les régions les plus avancées. Et comme le concept est prestigieux, ensuite, il peut se répandre par effet de prestige. Et donc, vous allez avoir des régions où des règles de primogéniture se répandent alors qu'elles ne servent à rien et qu'il y a toute la terre qu'il faut. C'est un peu comme ça que j'ai expliqué l'existence au Japon de différences importantes entre les systèmes familiaux de la partie ouest et centrale du Japon jusqu'à Tokyo. Et puis la partie dans le Tohoku, dans le nord-est, la région où il y a eu le tsunami, c'est aussi des règles de primogéniture. C'est aussi un système très hiérarchisé, mais où la terre était beaucoup plus abondante et où, en fait, ça ne servait pas à grand-chose. Alors les groupes familiaux sont plus fluides, plus lâches. Voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas de nécessité. Le passage, alors le passage le plus, je ne dirais pas le plus aléatoire, mais le plus, l'artifice de la construction, enfin, je souligne dans le cadre de l'émergence de la famille communautaire, je commence par souligner son caractère extrêmement artificiel et, dans le sens du progrès, inutile. La famille souche peut se justifier
pour des raisons. Vous pouvez dire en deux mots la famille souche, parce que peut-être que.
Alors oui, alors la famille souche, je suis désolé, c'est un concept d'origine française, élaboré par Frédéric Le Play au milieu du 19e siècle. Donc la famille souche, c'est ces systèmes à héritier unique, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, généralement l'aîné des garçons, mais au Pays Basque, dans certaines vallées, ça pouvait être l'aîné des enfants, même si l'aîné était une fille. Donc c'est des systèmes individuels structurés par des valeurs d'autorité, de co-résidence des générations adultes, et puis d'inégalité entre les enfants, y compris entre les frères. Et c'est associé pour moi à l'invention d'un premier principe patrilinéaire. Parce que ce qu'on trouve statistiquement, ça c'est le genre de truc qu'on peut dire quand on s'est appuyé à l'analyse de 215 familiaux, systèmes familiaux en Eurasie, plus des nuances régionales qui mènent à 400, 500 ou je ne sais pas, vous n'avez pas les types, vous avez leurs fréquences. Et donc, on peut trouver tous les types de familles souches. Je peux vous trouver des types de familles souches bilocales, où les garçons et les filles peuvent hériter s'ils sont aînés. Ça va être le Pays Basque, par exemple. Je peux vous en trouver aussi des matrilocales. En Grèce des îles, la Grèce est assez maltraitée en ce moment et considérée comme primitive, mais le système familial grec des îles est extrêmement sophistiqué avec un statut de la femme très élevé, famille souche. Mais si on a un bon échantillon, je ne sais plus combien j'ai de types de familles souches sur l'Eurasie, mais si vous en avez plusieurs dizaines, vous vous rendez compte que ce qui existe en général dans les trois quarts des cas, c'est la famille souche avec héritage par le fils aîné. Et donc vous voyez que la famille souche est associée à l'invention du principe patrilinéaire. L'idée que c'est un principe patrilinaire qui n'est pas parfait, et pour des raisons évidentes, pour deux raisons. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de garçon dans la famille, ce qu'on constate en général, c'est qu'une fille peut transmettre. Il y a des exceptions, hein, en Corée par exemple, mais en général, fille peut transmettre. Et surtout, c'est un système où les hommes ne valent pas la même chose. C'est des aînés ou des cadets. Et donc un cadet vaut une fille. Et donc, par définition, la famille souche. Mais. Donc voilà, ça va. Donc, pour la définition. Voilà. Bon, alors c'est la famille souche. Elle est c'est clair qu'on va pouvoir lui trouver des petits défauts dans la phase de modernisation. C'est quand même le système qu'on va trouver dans toutes sortes de pays qui ont fait des crises ethnocentriques assez violentes, comme l'Allemagne, le Japon, le Rwanda. Je sors de mon sujet, mais j'ai les données sur l'Afrique en tête, hein, ça n'est qu'un problème de mise en forme. Mais c'est un système dont on voit immédiatement qui présente un intérêt d'efficacité économique. Ça va correspondre à une population, c'est un système qui est fait pour transmettre les compétences et les savoirs. Donc ça va vous transmettre les techniques agricoles, il va y avoir l'idée de perfectionnement. Et puis ça va être des systèmes où quand une génération sait lire, la suivante saura toujours lire, ça ne sera jamais perdu. Très dynamique. Dans le monde développé, je laisse de côté la Chine, les deux grandes économies exportatrices, ça reste l'Allemagne et le Japon. La famille souche a disparu, mais les valeurs du système sont toujours là. On voit que c'est un peu rigide, ça peut se bloquer, mais on voit certains intérêts. Par contre, la famille communautaire, c'est-à-dire le deuxième type familial que je redéfinis, j'anticipe votre remarque, c'est-à-dire les systèmes russes, chinois et autres, chinois de la période la plus récente, parce qu'il y a eu une phase souche dans l'histoire chinoise, et puis une phase nucléaire. Bon. La famille communautaire, c'est des systèmes extrêmement lourds. Vous avez le père, vous avez ses fils, c'est des systèmes d'une très grande violence, où les femmes sont en général, je laisse de côté le monde arabe et le Moyen-Orient, où les femmes sont échangées comme des paquets entre les familles. Il y a des systèmes de relations extrêmement complexes dans des très gros groupes familiaux. Sur le plan économique, ça permet de réunir des gros groupes familiaux, mais ça n'est utile que plutôt dans les régions de faible densité de population, où le travail n'est pas très efficace. Donc c'est difficile à justifier. Je ne pense pas qu'on puisse trouver de cause économique. Et pour expliquer l'émergence de la famille communautaire, j'ai dû développer une explication assez complexe, à laquelle je crois, mais parce que j'ai pu trois fois voir se répéter le même mécanisme. Donc je vous dis pour la Chine. Donc, on peut constater l'émergence de la famille souche en Chine. La famille chouche en Chine. Voilà. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était dur à prononcer. C'est peut-être pour ça qu'elle a disparu, d'ailleurs. Encore chinois, ça doit se prononcer autrement. Et puis, donc, vous avez cette famille souche et vous avez une Chine, les pays du milieu, pas l'Empire du milieu, mais ce qu'on appelle les pays du milieu, qui est dans la Chine du Nord, qui est extrêmement prestigieuse. Il faut voir ce que ça pouvait représenter dans l'esprit des gens autour. Dans l'agriculture, la ville, l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus impressionnant que l'Amérique à l'époque où elle était prospère, pour nous. Hein. Et donc, vous pouvez imaginer... Donc, ils ont ce système souche. Et vous pouvez imaginer que ce premier principe patrilinéaire est transmis aux nomades de la steppe voisin. Et effectivement, on voit apparaître chez les Huns, deux siècles avant l'ère commune... C'est-à-dire 8 siècles après l'apparition de la famille souche en Chine, hein, quand même, on voit apparaître les signes d'une organisation patrilinéaire, mais avec un principe de symétrie, c'est-à-dire entre les groupes. Et si vous étudiez la famille des nomades de la steppe, alors ça, c'est pas juste pour les Huns de cette époque sur laquelle on a peu de données, mais on a tous les groupes de la steppe qui existent. Et les groupes de la steppe, je dirais, entre les Kalmouks du bas de la Russie et les Mongols actuels, ont une organisation familiale, je dirais, patrilinéaire, mais qui laisse visible la famille nucléaire. C'est-à-dire le campement nomade typique, c'est des familles nucléaires, chaque famille nucléaire dans une tente, mais un groupe de familles nucléaires associées dans un campement par des liens patrilinéaires. C'est structuré par les hommes. Il y a autant d'exceptions au principe patrilocal, patrilinaire, que dans la famille souche chinoise. Mais il y a une différence, c'est beaucoup plus souple. Et puis, il y a le début d'un principe de symétrie qui s'est établi, parce qu'il y a plus de différence. La différence entre les frères ne sert à rien. Bon, en fait, ce n'est pas une symétrie parfaite, parce qu'en général, on trouve dans ces systèmes de la steppe une tradition de... Je veux dire, le plus jeune des fils récupère ses parents et la tante. Et puis le troupeau est divisé entre les frères à mesure de leur mariage. Mais donc l'hypothèse que je fais, c'est que ce principe patrilinéaire qui s'est superposé à la famille nucléaire a été acquis au contact des Chinois, par imitation des Chinois prestigieux. Qui dénierait aux Chinois le fait d'être prestigieux en ces siècles reculés. Et ensuite, ce qui apparaît, c'est que ce principe patrilinaire qui avait été, et l'existence d'un principe patrilinaire et de sa diffusion avait été notée par un anthropologue américain que j'admire beaucoup d'entre-deux-guerres, qui s'appelait Robert Lowy. Donc, dans son livre sur la société primitive, il parle d'une zone de diffusion de la patrilinéarité dans l'ensemble de l'Asie centrale, de la Sibérie. Et évidemment, à partir de là, vous voyez à quoi ça peut servir pour ces groupes-là. Le principe patrilinaire donne un avantage d'ordre militaire. Parce qu'un clan patrilinaire, c'est une armée dans le civil. Et c'est à partir du moment où les nomades de la steppe acquièrent le principe patrilinaire que commencent les invasions. Bon, les invasions, ça a été, plus tard et moins spectaculaire en Europe. Il y a eu les Huns, il y a eu les Mongols. Mais sur la Chine, ça a dévalé très vite et tout de suite. Et en fait, on voit apparaître la famille communautaire chinoise à partir du moment où, peu après, que commencent ces invasions. Alors les choses deviennent très claires au moment, les preuves, je dirais, juridiques du communautarisme chinois. On les trouve à peu près autour de la fondation de l'Empire. Donc on va trouver, tout d'un coup, il y a une règle de l'empereur établit une règle de division des héritages. C'est-à-dire la primogéniture disparaît, les frères deviennent égaux. Puis l'empereur se met à pourchasser les mariages en gendre, les mariages matrilocaux. Donc on voit le principe patrilinaire qui s'affirme. Mais le lien avec les nomades de la steppe peut être établi beaucoup plus dans le détail. Parce que le royaume chinois, la Chine était divisée avant l'Empire et juste avant cette période, et le royaume chinois qui a fait l'unification du territoire chinois, c'est le royaume de Qin, Q-I-N, qui est en fait le plus nord-occidental en Chine, au contact des nomades de la steppe, et qui a réussi à unifier l'ensemble parce qu'il avait adopté les techniques militaires des nomades de la steppe.
On peut avoir le sentiment, pour vous, la famille explique pratiquement tout.
Non, là, je suis en train d'expliquer la famille plutôt.
Oui, mais et la famille conditionne aussi les systèmes. Voilà,
mais ça, c'est pas dans systèmes. Ce livre, c'est dans mes livres antérieurs. Oui. Non, je voudrais quand même terminer.
C'est un peu ce que vous dites aussi, là, en expliquant, même si vous décrivez quelque chose.
Je dirais pas, c'est une judicieuse question, mais j'y répondrai en biais. Je ne dirais pas que la famille explique tout, je dirais qu'on peut parler de la famille indépendamment du reste, là. Je l'associe à des processus politiques, à des dominations de populations sur une autre population, mais c'est vrai que j'arrive à parler de la famille comme si elle était indépendante des autres éléments de structure sociale. Alors, honnêtement, si vous me croyez sur mon modèle Chine, nomade, etc., uniquement d'après ce que j'ai dit là, vous n'êtes pas sérieux. Je ne pense pas qu'on puisse me faire confiance sur une interprétation de ce type. Mais là, je ne suis pas en train de me tirer un fusil dans le pied. Ce que je vais montrer, c'est que je suis un type hyper sérieux. C'est que ce modèle, avec une phase souche et puis des invasions nomades, on le retrouve en Inde du Nord et en Mésopotamie. Or, en Inde du Nord, c'est les mêmes nomades, en fait. C'est les uns qui arrivent. C'est vraiment... En Mésopotamie, c'est encore plus intéressant parce que vous allez trouver une phase souche. Vous allez trouver des traces de primogéniture à Sumer. En fait, on a tellement de trucs qu'on peut faire une carte de la primogéniture et on se rend compte qu'elle va avoir une distribution périphérique autour de la Mésopotamie centrale, d'Akkad, de Babylone, des unifications impériales. On va retrouver un modèle vraiment très... très proche du modèle chinois, et puis surtout, on va voir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va voir une Mésopotamie sumère avec des règles de primogéniture, et puis on va voir, à un certain stade, des invasions de nomades amorites qui s'emparent des tout, qui aboutissent à la fondation d'empire, et on va trouver, alors c'est pas des nomades de la steppe à grande distance, c'est avant le dromadaire, donc c'est des nomades à petite distance avec des ânes et des moutons venant du désert de Syrie. Mais on a les traces, dans les documents du palais de Marie, sur l'Euphrate, où on voit apparaître les mêmes éléments de symétrie et de patrilinéarité qu'on voit apparaître chez les Huns. Donc on a trois fois le même système. Donc quand on est à trois, on peut pas affirmer... que c'est la bonne explication, on est quand même à un niveau de vraisemblance élevé.
Je reviens une seconde sur le principe des zones périphériques. Est-ce que vous avez l'air convaincu de son fonctionnement, mais est-ce que c'est un principe réellement efficient? Vous le disiez vous-même, les structuralistes l'ont abandonné, ils avaient peut-être de bonnes raisons de le faire.
Alors, pourquoi ils l'ont fait? C'est une grande question.
Parce que c'est quand même ce qui sous-tend votre...
Ça pose... C'est un livre qui est très savant, très érudit et qui, en fait, pose beaucoup de questions d'ordre général, idéologique et sur le fonctionnement social. C'est vrai que la réutilisation de ce principe du conservatisme des zones périphériques suggère que l'anthropologie a pris un mauvais virage après la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle s'est engagée dans une impasse. Alors, on ne peut pas dire qu'elle s'est autodétruite. Je veux dire pourquoi ? Parce que, en fait, ces questions d'analyse des processus de diffusion par la distribution dans l'espace, c'était monnaie commune chez les anthropologues américains de l'entre-deux-guerres qui travaillaient sur toutes sortes de populations indiennes et qui voyaient bien ces mécanismes de diffusion culturelle. En fait, il y a une première définition émergence du principe du conservatisme des zones périphériques dans l'origine des espèces de Darwin, puisque une espèce nouvelle, c'est une innovation qui a un avantage compétitif qui va se répandre vers la périphérie. Et donc Darwin, qui était très intéressé par les distributions géographiques, avait repéré... Il n'y a pas que ça dans Darwin, mais l'une des explications fondamentales, c'est... Si vous prenez... Là, tout à l'heure, j'étais sur les... sur les maisons à pans de bois, mais un jour j'étais tombé, malheureusement je l'ai perdu dans un journal du dimanche anglais, j'étais tombé sur la distribution des écureuils roux et gris. Et donc, en fait, le problème, c'est que l'écureuil gris était arrivé d'Amérique à une date tardive, et apparemment, il avait la particularité de pouvoir bouffer certains produits de la nature 2 semaines avant que l'écureuil roux soit en état de le faire. Avantage compétitif. Donc ça n'a pas raté, l'écureuil gris a éliminé l'écureuil roux. Donc l'écureuil roux subsistait, à l'époque où j'ai lu l'article, peut-être que c'est fini, donc il subsistait en Cornouailles, au Pays de Galles, en Écosse, sur la périphérie. Même truc. Non, ça marche vraiment très bien, pour toutes sortes de choses. Alors pourquoi est-ce que cet instrument d'analyse fantastique a été littéré? Pourquoi il y a eu cette fixation sur le structuralisme? Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons dont aucune ne suffit. Alors la première raison, c'est que les processus de diffusion ont été pris en haine après la Deuxième Guerre mondiale, parce que il faut bien voir que le processus de diffusion n'est pas gentil. J'ai parlé d'effet de prestige, j'ai parlé d'avantages militaires pour le principe patrinaire. Donc derrière le processus de diffusion, il y a l'idée d'inégalité de puissance ou d'efficacité. Et donc il y a l'idée, pas d'inégalité des races ou des essences, mais il y a l'idée d'un rapport de force qui peut être simplement culturel à un moment donné. Et je pense que vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, et avec beaucoup de raisons, les anthropologues ont pris l'idée de rapport de force en horreur. D'autant plus qu'il n'y avait pas que les souvenirs des rapports de force de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi les problèmes immédiats de la décolonisation. Et du discours sur les... Donc en fait, la notion de diffusion est associée à la notion de rapport de force. Alors le problème, c'est que c'est hyper sympa de se débarrasser de la diffusion parce qu'on n'aime pas les rapports de force. Le principe, c'est que dans l'histoire, les rapports de force existent. Et que donc, en fait, en se débarrassant du principe, pour de bonnes raisons morales,
Vous reprochez aux anthropologues de ne pas être historiens.
Ah bah, ça par définition, ils ne sont pas. Hein, mmh. Donc ça, c'est l'une des premières raisons. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'après-guerre, ça a été aussi l'apparition d'une analyse monographique en anthropologie assez normalisée et efficace, où on prenait... En tant qu'anthropologue, moi, j'admire énormément les anthropologues. Les anthropologues, pour moi, c'est des types extraordinaires qui sont capables d'aller vivre 6 mois, 1 an, 2 ans dans un endroit épouvantable, selon mes propres critères. J'avais une copine à Cambridge, Claire, qui était anglaise, mais bilingue, français aussi, que j'avais connue en France, et que j'ai retrouvée là-bas, et qui, elle, allait se faire... qui a été étudier les Touaregs, et qui revenait... était assez anglaise, quand même, hein, mordue par des chiens, malade. Donc c'est ça. En tout cas, c'est comme ça que je vais. Non seulement vous vivez ça, mais vous gardez la force morale de produire une description détaillée de la société où ça vous est arrivé. C'est admirable. Moi, la seule anthropologie de terrain que j'ai fait, le seul peuple étrange que j'ai étudié de près, c'est les Anglais quand j'étais à Cambridge. En fait. Ce qui n'est déjà pas mal, en fait. C'est une discipline admirable. Et l'école britannique est vraiment tout à fait extraordinaire. Parce que les Britanniques ont aussi l'autonomie morale. Bon, ils sont vraiment... Voilà. Mais le problème, c'est que quand on vous met dans cette situation, dans une communauté comme ça, vous avez donné une description méthodique de tout. Le système familial. Au début, c'était la parenté. Puis c'est devenu progressivement la famille aussi. C'est de parenté, les mœurs, enfin tout ce que vous voulez, la poterie. Et comme vous allez concentrer vos efforts sur une seule communauté... Inévitablement, vous allez être pris dans un trip fonctionnaliste structuraliste. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas de point de comparaison, vous allez être amené à penser que tous les rapports entre les éléments de la structure sociale ont un sens. Donc l'hypothèse structuraliste découle presque naturellement de la monographie. Et c'est très difficile de résister et de se dire « Non, mais cet élément de la structure sociale que je vois là... Ce principe patrilinéaire que j'observe dans cette structure familiale, en fait, non, il n'a pas de rapport avec le mode de production agricole, il n'a pas de rapport avec la forme des poteries. Vous voyez, pour savoir d'où il vient, il faut voir que les mecs du village à côté, ou la communauté à côté, ou du peuple à côté, ils sont très différents, ils peuvent être différents par la langue, par toutes sortes de choses, par le système de production, mais ils ont aussi ce système patrilinaire et ils l'ont transmis. Vous voyez, donc Donc il y a une sorte de piège.
Pour voir l'ensemble de la
dans
carte.
La monogamie. Il faut regarder la carte. Et le problème, c'est que si vous avez la force morale de faire une monographie comme ça, ce qui est tout à fait extraordinaire, je veux dire, vous n'en sortez pas avec la possibilité d'en faire une deuxième à côté, ou rarement. Il y a des types, un type comme Leach, qui était l'un des papes de l'anthropologie quand j'étais à Cambridge, qui d'ailleurs m'a fait un rapport absolument dégueulasse sur ma thèse. Et je veux dire, il a fait très, très, très belle étude sur les Kachins, Chan et Kachin en Birmanie. Et puis il a fait une monographie sublime sur un village de Ceylan. Mais le problème, c'est que c'est... Alors, ça explique une partie des choses, mais pas tout. Parce que, par exemple, Murdoch, anthropologue américain, absolument contemporain de Lévi-Strauss, Social Structure, la structure sociale, c'est presque à un an près, la même année que les structures élémentaires de la parenté, il y a aussi ce biais structuraliste. Et lui, par contre, son truc, c'était de réunir toutes les données dans un gigantesque atlas normalisé. Alors lui, il a réuni toutes les données, c'est très utile, on ne peut pas s'en passer. Je l'utilise beaucoup, et je vais l'utiliser encore plus dans mon tome 2. Mais lui, il a pratiquement des hypothèses interprétatives qui excluent la possibilité de la diffusion. J'ai oublié de l'allumer sur ce sujet dans mon intro, mais donc c'est pas juste la monographie, c'est aussi donc il y a cette hostilité de principe à la diffusion. Et alors moi c'est terrible parce que en fait Lévi-Strauss, moi j'admire énormément Robert Lowie, vraiment son traité de sociologie primitive chez Payot, je ne sais pas si c'est épuisé ou non. Ça date de 1919, la première édition. C'est un livre tout à fait extraordinaire et Lowie était un grand savant. Je l'avais lu et j'étais épaté. Je me disais, mais quand même, il est américain. Je veux dire, ce livre est fantastique, extraordinairement cultivé. Donc, ça n'est pas vrai que je suis anti-américain. Ensuite, j'ai vu qu'il était né à Vienne.
Ça explique.
Que tous les grands anthropologues américains de l'époque étaient d'origine allemande, juive ou non. Mais et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que... moi, j'en revois beaucoup à Lowie, mais... En fait, Lévi-Strauss a appris l'anthropologie dans Lowie. Il a démarré avec Lowie. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais effectivement comme si tout ce qui s'était passé entre les deux n'était qu'une gigantesque erreur. Ce qui, je reconnais, n'est pas très gentil.
C'est un peu un prédateur du travail aussi des autres, on peut vous faire
ça. Moi, je ne suis que ça. Je veux dire, mais si vous voulez, les anthropologues, en général, ne m'aiment pas. Mais j'explique dans une note que... Je pense vraiment que l'anthropologie de terrain et la synthèse anthropologique, c'est deux métiers différents. C'est-à-dire être capable de s'installer dans un milieu difficile, étranger, d'en apprendre la langue, de reconstituer la structure sociale, parce qu'il y a un élément de structure quand même, c'est un métier. Et alors vraiment, c'est un métier que je ne peux pas faire. Vraiment, hein. Déjà que j'ai peur en avion, donc... voilà. Bon, ça veut dire non, plus maintenant, parce que...
J'ai plein d'autres questions.
Voilà. Synthèse en anthropologie, c'est-à-dire prendre plein de monographies et en tirer un modèle général, c'est un autre métier. C'est de l'anthropologie en chambre. Je veux dire, c'est beaucoup plus austère. C'est moins dangereux. Je dois avouer que j'ai mené une vie assez peu risquée dans l'ensemble. Mais en jeu, mais c'est une vie d'une austérité, d'un manque d'exotisme. Un type qui a vécu ma vie n'a rien à raconter d'intéressant. Mais vous déjeunez avec un mec qui a vécu des trucs. Bon, vous voyez, le prix d'un truc comme ça, c'est une existence lamentable.
Merci Emmanuel Todd. On va s'arrêter là. Merci. Merci à tous.